J'essaye de m'épargner ça, fait que je m'en vais sur la piste cyclable. Puis je regarde la piste cyclable, puis je me dis, ouais, il y a de la glace aussi, hein?
Ben oui. Fait que, celle de l'autre côté, là? C'est parce ouais. que ça, la piste cyclable est aussi le trottoir pour les gens qui sont du côté nord.
Fait que c'est un peu ça qui arrive. Fait que ce que je voulais dire, et je sais que je perds mon temps parce que là, vous allez dire, ouais, mais t'es à la fin. Je pense que c'est un temps de l'année où si vous croisez un cycliste qui n'est pas dans sa piste cyclable ou que vous croisez un piéton qui n'est pas dans son trottoir, un peu de tolérance avant de l'engueuler, d'y faire peur, de le frôler avec votre engin.
Hey, ça, là!
C'est ce Écoute,
stupide à un niveau là,
incroyable.
Pour prouver un point. Là.
Je me l'ai fait faire par un cycliste le printemps passé, ouais. alors que j'étais à pied avec mes écouteurs. J'en revenais pas. Tu sais, faire exprès, là. J'étais en train de traverser. Il est arrivé à toute allure. Je pouvais pas le voir. Il était en descendant. Mais à vitesse qu'il est arrivé, j'espère qu'il a gagné son Tour de France. J'ai pas pu le voir avant traverser la piste cyclable pour aller continuer sur le trottoir de l'autre bord. T'sais, c'est pas tout le temps user-friendly, ces affaires-là.
C'est
là.
Pas tout le monde qui a une mauvaise foi. Hein? On dirait que des fois, les gens oublient ça. Là.
Ouais.
Même sa route.
En, on n'est pas en guerre.
Non, même sa route, quand tu. Dernière minute, tu mets ton flasher pour changer de voie parce que tu prends la mauvaise. C'est pas tout le monde qui est de mauvaise foi et qui veulent vous faire chier. Là.
Fait que c'était mon petit cours de preacher à deux scènes. Tolérons-nous tout le temps, là, mais particulièrement à ce temps-ci de l'année, alors que souvent, l'endroit qui nous est attribué dans la circulation, il est juste pas praticable puis dangereux. Bref, je referme la parenthèse. Ouais. À l'extrême centre, on essaye ça, nous autres, la cohabitation et la tolérance.
Ah, puis la patience. Oui,
on verra si on est capable de faire plus de chemin avec ça que Québec solidaire. Là. Je regardais les derniers sondages, puis ça va pas yaub. Fait qu'on va essayer de récupérer ça de notre
côté. Ah ouais, moins solidarité, hein?
Oui, ben, quand même un peu. On va regarder l'essentiel des nouvelles. On est mercredi, on est le 25 février.
Oui, peut-être commencer avec une annonce de fermeture temporaire.
Mais d'abord, Audrey, la circulation. Sûr. Je l'oubliais presque.
Henri IV-Nord, à la hauteur de la route Sainte-Geneviève, la voie de droite qui est bloquée. Il y a une sortie de route. Il faut savoir que les services d'urgence sont sur place en ce moment. Si vous êtes sur la 40 Est, hauteur chemin du lac, la voie de droite qui est partiellement entravée, panne. Les policiers qui sont arrivés et le remorquage qui est en cours en ce moment. C'est quand même plus difficile aujourd'hui qu'hier. Capitale Est, hauteur Robert Bourassa, particulièrement au rouge. Ouest, hauteur Laurentienne, Robert Bourassa, direction Nord. C'est entre Charest et la capitale que ça se passe. Si vous êtes sur Charest, direction Est, hauteur Robert Bourassa, léger ralentissement. Ralentissement inhabituel aussi sur Henri IV Nord, entre, je vous dirais, Wilfrid Hamel et presque Sainte-Geneviève. Bon ralentissement. Plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire, il y a un certain problème aussi, là, rue de la Bravoure, dans les deux directions. Et l'entrée des ponts, direction sud, ça c'est un classique. Henri IV à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Duplessis de chemin Sainte-Foy au pont La Porte. Pour ce qui est de la rive sud, ça va bien. Il y a juste un petit problème là, sur la 20 ouest, hauteur chemin des îles, mais rien pour appeler sa mère. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102 texto.
Je pense que c'est mon expression préférée.
Rien pour appeler sa mère. Oui. Moi aussi, j'aime tellement ça à dire. Là.
Surtout dans le circule.
Ah, c'est assez le fun.
Alors que t'es le genre à appeler ta mère quand il n'y a rien. Vrai, oui.
J'appelle juste mes parents quand il n'y a rien.
Moi aussi.
Quand il y a quelque chose, je les appelle pas.
Le pire,
je
c'est pas les inquiéter. Ça fait longtemps que ma mère a compris le modus operandi. Quand ça fait une semaine et demie que j'ai pas donné de nouvelles, elle sait qu'il y a de quoi qui va pas.
Elle demande ça à ton père de t'envoyer un message? Moi, c'est ce qu'elle fait.
Moi, c'est ma mère qui m'écrit et elle dit « Qu'est-ce qui se passe, ma fille? » Oh, c'est tout le temps ça.
Mais mes parents ont le même messenger, mais je décode très rapidement qu'ils me parlent.
Qui écrit, hein?
Oui,
ça,
oui.
C'est facile, je sais pas pourquoi. Hein? C'est drôle qu'on ait appris à décoder le langage écrit. Ça me fascine.
On est pas si pire comme bébite quand on se laisse aller un peu. Là.
Ouais.
Véro, dans l'actualité.
D'abord, une fermeture temporaire d'un escalier à Québec, l'escalier La Vigueur. Il est en bois. C'est pas celui qui rouille. Là, c'est un escalier qui relie justement les rues La Vigueur dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et Arago Est dans le quartier Saint-Roch. On va fermer ça temporairement du 2 mars au 3 avril. C'est dans le cadre des travaux pour assurer la pérennité de l'escalier. T'sais, on s'en était parlé pas mal qu'il y avait quelques escaliers à Québec qui commençaient à être un peu débinés et à la limite dangereux. Fait qu'il fait partie de ce fameux plan-là. C'est finalement un jeune de 15 ans qui a été arrêté en lien avec une tentative de meurtre qui s'est passée dans le secteur du Berger il y a quelques semaines à peine de ça. La semaine dernière, le service de police de la Ville de Québec qui envoie un communiqué, a besoin de l'aide de la population. Ils ont deux suspects qu'on recherche avec des images de caméras caméras de sécurité, puis finalement avec la collaboration du service de police de la Ville de Montréal, mais surtout grâce à l'information du public, ils ont été en mesure de faire avancer l'enquête et on a pu arrêter ce jeune-là de 15 ans sur le territoire de la Ville de Montréal. Donc, un chef d'accusation, c'est tentative de meurtre qui a été arrêté ce matin.
Seriez-vous capable, mettons-le, avec l'ère dans laquelle on vit où on prend des jeunes de plus en plus jeunes pour commettre des crimes, là, d'être avec quelqu'un dans le futur qui a commis un crime comme ça à 15 ans?
Non.
Non.
Parce que, tu sais, il avait bien rien que 15 ans, il s'est peut-être fait brainwasher, tu comprends, mais mettons, il a tué quelqu'un, là.
Là, c'est une tentative dans ce cas-ci.
Oui, mais il y en a où ça a été réussi.
Ça excuse peu le geste, je te dirais.
Mais c'est vrai que 15 ans, t'as pas tort, Audrey.
T'sais, c'est jeune, là, mais en même temps, même moi, je suis pas capable d'y répondre. Parce que comment tu te refais une vie après ça?
Ben, tu peux devenir député si tu as fait des niaiseries pendant le sommet des Amériques.
Je veux pas nécessairement comparer les époques, mais j'ai eu la chance en début de semaine de faire un podcast sur la guerre des motards avec Roger Ferland, ouais, qu'on aime beaucoup. Puis Audrey, je sais que c'est toi qui es en contact avec pour l'équipe. Peut-être lui poser la question parce que je ne l'ai pas abordé dans le dossier de la guerre des motards quand on a parlé des clubs-écoles. Demandons à Roger Ferland si dans le temps de Maurice Mombouché et des Hells Angels, quand on a commencé à faire des clubs-écoles à grandeur de la province, et Rock Machine et Hells Angels, ceux qu'on formait pour devenir des motards criminalisés, il y avait quel âge? Ça commençait-tu? Parce que je sais que, puis je ne veux pas les glorifier,
toi, tu penses qu'il y a une éthique?
Je veux pas les glorifier, mais les Hells Angels avaient un code d'honneur. Au départ, c'était des anciens militaires qui voulaient appliquer certains principes militaires de base à leur organisation d'enthousiastes de la motocyclette.
Ça, tu parles d'il y a très, très longtemps.
C'est devenu autre chose, mais il y a quand même des lois chez les motards. Il y avait quand même des lois chez les motards, puis un certain code d'honneur, et encore une fois, je le répète, je veux pas glorifier les motards criminalisés. Ils ont tué tellement de victimes innocentes au Québec pendant un certain temps. D'ailleurs, on en a parlé dans ce podcast-là qu'on va vous rediffuser à la mi-avril. Mais je suis quand même curieux. À l'époque où on faisait du recrutement à grandeur du Québec pour mettre de la dynamite partout puis faire sauter du monde, à l'époque où on tirait à bout portant sur des journalistes, on embauchait-tu à partir de 18 ans où on commençait à faire du recrutement très jeune? Merci Audrey, t'es fine, puis merci à Roger d'avance, il est tellement gentil. Quelle belle personne.
Vraiment. Parlons du Flushgate qui touche actuellement la ville de Lévis, plus particulièrement le secteur de Saint-Nicolas. C'est des informations qui avaient d'ailleurs été qui ont été dévoilées d'abord par Radio-Canada. En fait, l'origine de tout ça, c'est qu'il y avait eu un avis en 2021 du contentieux de la ville de Lévis disant « Hey, votre usine de traitement des eaux dans le secteur de Saint-Nic, elle dépasse sa capacité ou elle est à la limite d'eux, puis ça pourrait causer des problèmes, comme par exemple des sanctions administratives de 10 000 $, des amendes d'au moins 30 000 $ et d'au plus 6 millions de dollars. » Fait qu'on les avertissait de déjà travailler là-dessus. Et finalement, dans les chiffres qui sont sortis, c'est que depuis 2023 au moins, la station de traitement et d'épuration des eaux de Saint-Nicolas n'arrive qu'à traiter 85 % du volume qu'elle reçoit. Beau temps, mauvais temps, ça veut dire qu'il y a un 15 % qui, lui, s'en va straight pipe dans le fleuve.
Ouais.
Salutations à toutes les municipalités qui ont des prises d'eau après.
15 % de la marde des gens de Saint-Nicolas s'en va sans filtre. Raw and unfiltered dans le fleuve.
Wesh.
En 2026, c'est dégueulasse, c'est incroyable.
On dirait un épisode de Jerry Springer.
Puis, tu sais, je veux bien là, qu'on fouille dans nos poubelles là, pour voir les abus et tout ça, mais on s'attaque-tu aux bonnes personnes? On s'attaque-tu aux bonnes priorités?
Tu demandais de vérifier les chiffres pour Québec. Là.
Oui,
en 2023,
oui.
C'était 95 %. Puis on estimait qu'on allait rejoindre le 99 %, mais on n'a pas les chiffres les plus à jour. Il y a eu une réaction de la part du cabinet de la mairie de Lévis face à la situation à la station de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas. La ville de Lévis agit de manière responsable. Je vous rappelle qu'il y a un moratoire à Lévis parce qu'on ne peut plus développer, mais il y a quand même des logements qui sont censés être développés dans ce secteur-là où l'usine ne fournit pas encore.
En fait, le communiqué, c'était de bien belles phrases pour dire en gros « Désolé si ça chie.
Ben, » t'es niaiseux.
Merci.
Fait qu'on dit que c'est la raison pour laquelle il y a un moratoire sur la construction qui est en vigueur depuis novembre 2024 pour éviter d'augmenter la quantité de rejets excédentaires. C'est vraiment des beaux mots pour dire ce qui s'en va dans le fleuve.
Non,
exactement. Que la mise aux normes de ces infrastructures-là demande du temps et des investissements considérables, qui collaborent depuis le jour 1 avec le ministère de l'Environnement. Puis le journal est allé aux sources.
Hey Audrey, je sais que t'es ballonné, t'as mangé des pâtes ce midi. Si tu veux aller t'occuper de tes rejets excédentaires, tu te gênes surtout pas. Hein? Empêche-toi pas pour nous autres.
Je pense que je vais le garder on dans mon vocabulaire.
On est sur la rive nord ici, fait que ça va tout aller à la bonne place.
Les intolérances me causent des rejets excédentaires que je contrôle difficilement. Tu sais, ton drip pas le chaud.
Je ne sais pas comment faire, j'ai des rejets excédentaires.
Donc, le journal qui...
Avant, je grenais des verres, maintenant j'ai des rejets excédentaires.
Qui s'est fait répondre par la ville de Lévis qui avait des investissements prévus de 157,5 millions d'ici 5 ans pour la mise à niveau des infrastructures, mais qu'on n'a pas de plan de mise à niveau, pas la nature des travaux à venir, qu'on n'a pas les échéanciers, qu'on n'a pas l'état actuel de ces infrastructures vitales-là et qu'on n'a pas les montants non plus. On pense que l'entente qu'il y a eu sur les infrastructures entre Ottawa et Québec devrait aider Lévis, mais vous comprendrez qu'on est loin de la coupe aux lèvres pour les rejets excédentaires.
Je ne sais pas pourquoi Kevin Parent est rendu le porte-parole de l'excédent, mais je n'avais une autre dans ma tête.
Ah oui?
Seigneur. Seigneur, que si tu veux que je te chise.
Ça chise.
T'es donc bien juvénile aujourd'hui.
C'était poussé, ça là.
J'ai mangé de travers, je suis viré. Alors.
Mais voyons! Okay, reviens-moi!
OK, ça, c'est assez, là. C'est parce que... Ouais, c'est ça. J'avais faim, puis là, Audrey m'a donné des céréales sans sucre, mais j'ai l'impression que j'ai un boss de sucre.
Un boss de cannelle.
Je vais juste aller me calmer un petit peu.
Aujourd'hui, il y a des témoins qui passent en commission parlementaire sur le projet de loi contre les pratiques abusives en matière de revente de billets. C'est le projet de loi du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Puis il y a des beaux timings qui sont arrivés. D'abord, un peu plus tôt aujourd'hui, il y avait le directeur général des scènes de musique alternative du Québec qui... a dit que certains producteurs profitaient du marché de la revente et utiliseraient ce marché secondaire-là à leur avantage, entre autres pour essayer de combler des salles qui n'étaient pas complètes, donc passent par ces mécanismes-là.
Ouais.
Il y a ensuite de ça eu le monsieur du Festival d'été de Québec qui est allé se présenter.
Le monsieur.
Le PDG, je cherchais son titre.
Le monsieur du festival. C'est qui ça?
Le gars, là.
C'est le gars, là.
Tu m'as tellement détaillé aujourd'hui.
Le petit monsieur du festival.
Donc, Nicolas Racine, PDG du Festival d'été de Québec, qui a été questionné, puis on lui a demandé s'il y avait des ententes comme ça qui existaient. Puis en même temps, puis là, le journal a sorti la capture d'écran. Il y a des billets annoncés en pré-vente du Festival d'été de Québec qui va annoncer sa programmation le 11 mars, qui met en vente générale, c'est laissé passer la même date. Et tu peux aller sur billets.ca puis remplir un formulaire pour avoir accès à des billets réservés.
J'ai toujours soupçonné que tout le monde avait des ententes avec les grands revendeurs, mais ça, c'est comme la collusion sur le prix de l'essence. Tout le monde s'en doute. Personne n'est en mesure de le prouver.
Le monsieur Dufec a dit que c'était pas le cas.
C'est pas vrai, mon petit monsieur Dufec!
Le PDG du Festival d'été de Québec, il a dit qu'il était contre la revente, que c'était pas le cas, qu'il n'y avait pas d'entente écrite ou verbale avec des vendeurs, que ce sera jamais leur intention, qu'ils prennent plusieurs mesures pour limiter la revente, comme entre autres retarder la distribution des laissez-passer. Ils savent à peu près le nombre de laissez-passer qui circulent. Puis au début, il ne voulait pas dire le nombre, puis le soleil lui a posé la question. Puis il estime que c'est environ 10 % des 125 000 laissés-passer qui sont disponibles en revente. Donc, ils disent que c'est plus de 90 % des laissés-passer qui sont entre les mains d'acheteurs-utilisateurs, qui souvent, eux autres, vont les revendre en partie, mais ça, c'est différent. Là.
Dans le temps que la revente de billets existait avant Internet...
Les scalpers!
Je regardais la face du scalper.
Il y avait tout le temps un cours de cuir.
Puis je me disais, lui, il a réussi à avoir tous ces billets-là. Puis moi, faut que je fasse affaire avec lui parce que j'ai pas réussi à en avoir deux.
Pourtant, je ne l'ai pas vu dans le fil de Ticketmaster.
Non, écoute, c'est sûr qu'il y a des contacts. Moi, j'avais des systèmes avec les téléphones, puis on se mettait avec nos chums, puis il y avait des comptoirs Réservatech, puis Ticketron. Puis on savait il était où les dépanneurs les moins fréquentés pour être sûr, quand il y avait un gros show à Québec puis Montréal, d'avoir des places. Mais des fois, on n'était pas capable. Puis, il fallait wairer autour de l'aréna. Le gars le plus louche, ticket, guys. Ticket, ticket, ticket. Tu te dis, OK, lui, là, Beavis adulte, lui, il a des billets pour tout le monde. Puis, tu me fais accraire qu'il est allé acheter ça au dépanneur. Hey, fuck off. Fait que malgré la performance du petit monsieur du festival, comme tu l'appelles, je demeure avec des doutes.
Bon, mon texte était en caractère 8, puis j'avais vraiment beaucoup d'informations dessus, puis j'avais pas souligné son nom, puis je le recherchais désespérément dans mon résumé.
T'inquiète, t'as-tu des tickets? T'inquiète!
Le pire, c'est
que
tu sais que l'année passée au Festival d'été de Québec, étant donné que là, on commence à détester les plateformes de revente, il y a un dude qui s'était pointé sur la Grande Allée puis qui s'était fait un kiosque. Et les gens allaient louer carrément sur la Grande Allée leur passe. C'est fou, là!
Ah oui, puis je connais du monde qui se font avoir dans des transactions de même, Audrey, puis faut que le monde soit prudent.
Ben, t'as raison.
Ben oui.
Je termine avec ça. Je ne fais pas partie des gens qui sont obsédés par les Epstein Files. J'ai des amis et des collègues qui n'en dorment pas la nuit tellement qu'ils lisent tout ce qui sort là-dessus. Mais mon regard a été accroché par des informations sorties par le Wall Street Journal un petit peu plus tôt aujourd'hui. Parmi les noms qui ont circulé dans les Epstein Files, il y avait le nom de Bill Gates. Bill Gates, fondateur de Microsoft, grand philanthrope, nerds reconnus de tous.
Ben, mettons qu'il y a deux Bill que tout le monde savait qui s'étaient rincés.
Mais en fait, lui, on ne savait pas trop parce qu'il y avait son organisme de philanthropie avec sa conjointe de l'époque, Melissa Gates, mais les deux, il a l'air plate, Bill Gates.
Ouais, mais tu peux faire de la philanthropie puis aller violer des mineurs sur une île quand même.
C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas des mineurs. Ce qui est sorti dans dans les informations des Epstein Files, Denis, c'est un brouillon que Jeffrey Epstein avait commencé à rédiger au sujet de Bill Gates, dans lequel il parle de lui fournir des médicaments parce que les femmes avec qui il aurait couché avaient des maladies vénériennes. Et là, Bill Gates, il a l'air du gars le plus mal à l'aise de la Terre.
C'est quoi le problème à Bill Gates? Il avait un testicule plus gros que l'autre?
Ça arrive pas, ça.
Ça arrive pas, ces affaires-là. Voyons donc.
C'est une infection urinaire.
Oui, comme tout le monde.
Donc, ce que lui a fait, c'est que c'était un enregistrement sur lequel le Wall Street Journal a mis la main, où il s'est excusé au personnel de sa fondation caritative pour sa relation passée avec Jeffrey Epstein. Lui maintient qu'il n'a jamais rien fait d'illégal et qu'il n'avait rien vu. Je pense que c'est le fameux principe que, tu sais, moi, je me suis déjà tenu avec du monde qui vendait de la drogue, mais m'en ont jamais offert. Ou je ne l'ai jamais vu aller. Comprends-tu?
Ouais, c'est un peu le principe d'un gars qui se fait sucer à la Maison-Blanche puis qui dit qu'il n'a pas eu de relation sexuelle. C'est un peu la même chose. Là. Tant que tu n'es pas pogné la main dans le sac avec une photo puis une vidéo,
ouais, mais tu
fais
voir.
Comme les autres, tu mens puis tu mens.
On s'approche de mon bout préféré. T'sais, il a dit qu'il avait regretté avoir amené des dirigeants de sa fondation à des rencontres avec le financier déchu. Puis ça, c'était déjà sorti.
Il s'était excusé.
Et là, dans ses excuses, il a confirmé avoir eu des aventures avec des femmes russes majeures. Mais écoute bien, j'ai eu des liaisons extra-conjugales. Une avec une joueuse de bridge russe, rencontrée lors d'un événement de bridge. Ça fit tellement, là! Et l'autre avec une physicienne nucléaire russe, rencontrée dans le cadre de mes activités professionnelles.
Ouais, elle faisait ça pour payer ses études.
Non, mais tu sais, tant qu'à cocufier ta femme, mais je trouve que ça fit avec Bill Gates, c'est ça que je sous-entends. Ouais. Je comprends que Denis, il m'écoute pas, là, mais je trouvais ça quand même assez cocasse dans sa sortie.
Mais t'as juste un bout de l'information. Je suis déçu, tu nous parles pas de l'autre. Parce que tu sais que dans ces dossiers-là, entre autres des dossiers judiciaires du côté de Donald Trump, des fois on est appelé à décrire les pénis des personnalités. Et dans le cas de Bill Gates, on dit que c'est un petit pénis qui avait de la misère à entrer en érection. Donc un petit pénis flasque. D'ailleurs, son surnom sur l'île d'Epstein, c'était le Microsoft.
Ça, c'est de l'improvisation, c'est pas vrai. Là.
Et mon Dieu Seigneur!
C'était
bon.
Long comme
mais
mise en
c'est
contexte.
Bon. Mais non, mais tu sais, le Microsoft!
Quel chemin s'est fait dans ta tête, sérieux?
Ben, j'avais le choix entre ça et le software. Merci, Véro. Il est 16h18.
Harry!
Ah oui, Harry, il a du fun.
Ça fait combien d'heures que t'as ça dans ton collimateur, le Microsoft?
Ça fait 15 secondes, là. Le temps que je t'écoutais pas, j'étais en train de la bâtir dans ma tête.
C'est ça.
Ben oui, ben oui. Hey, on revient, ce sera pas là. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Microsoft.
L'actualité présentée par...
Merci d'être là à Boulevard 102.1. Merci d'être avec nous autres dans le retour. N'oubliez pas pour nous écouter en direct ou en différé quand vous allez sortir du char. Ramassez L'application Boulevard, c'est gratuit, ça s'installe rapidement. C'est user-friendly comme ça se peut pas. Pour rattraper le temps perdu, on vous divise ça en heures là, pour le retour, entre autres. S'il y a des entrevues, des affaires de même, des bebelles, gênez-vous pas. On va toutes placer ça au même endroit. Vous pouvez aussi fréquenter la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Vous y retrouverez aussi, entre autres, les nombreux podcasts qu'on continue d'enregistrer semaine après semaine, malgré la disparition, la destruction et le triste décès de notre studio de podcast. Moi puis Audrey, on est allé faire un petit pèlerinage vendredi. Ouais,
c'était un moment de deuil.
Ouais, j'ai pas d'émotion dans beaucoup de bâtisses, mais pour avoir vu une de mes maisons se faire démolir par une pelle mécanique, à cette heure, quand un milieu de vie se fait détruire, je viens un petit peu plus... un petit peu plus immo.
T'avais-tu eu un deuil ici quand on avait mis fin au mur bleu?
Non, non, mais dans le studio de podcast, on a vécu beaucoup beaux moments. Mm-hmm. On a eu nos tables rondes, on a eu nos conversations avec un paquet de gens intéressants. C'est là que j'ai pu partager avec mon meilleur ami, Robert Lepage, avec Pierre Aude aussi.
C'est là qu'on a pu éviter la dissolution de notre équipe.
C'est vrai.
Oui,
entre autres choses. On a vécu beaucoup de choses dans ces murs-là.
On a essayé d'incantonner les esprits, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, je m'en souviens.
Oui, tu y as presque cru. Mais notre studio de podcast est mort et enterré. Mais les podcasts, eux, perdurent pour le moment. Mais d'ailleurs, on s'en prépare un vendredi de cette semaine. On se parlait des Nordiques.
Yeah.
Une histoire que des gens se sont tannés d'entendre parce qu'on entend toujours le même bout, le bout où les Nordiques sont supposés revenir. Mais c'est avec des discussions avec mes propres enfants que j'ai réalisé que l'histoire des Nordiques puis pourquoi ils sont partis, nous autres, on le sait puis on l'a sur le cœur, mais je pense que de la raconter pour une nouvelle génération, c'est peut-être le temps de le faire. Donc, chaîne YouTube, l'application Boulevard, où vous demandez, on l'a essayé hier avec notre haut-parleur Ziggy intelligent.
Oui, puis Ziggy
on y a demandé,
ça.
On lui a demandé, moi puis le plus jeune, Ziggy fait jouer BLVD 102.1, puis clac, on s'est ramassé dans une émission avec Yann Marceau. De même, boum, Marceau le soir.
Ben, hot, ça.
Ouais. C'est aussi simple que ça. Dans vie, faut pas faire de généralité, c'est ça qu'on se disait tantôt en parlant de l'histoire du prof de l'UQAM qui a fait une étude pour dire que toutes les travers de nos jeunes viennent des programmes privés scolaires de hockey.
Toute l'intolérance.
Ce qui est une généralisation grossière, à mon humble avis. Mais pour éviter les généralisations grossières, faut transformer le cas d'exception en « OK, c'est de même que tout le monde fonctionne ». Puis des fois, la seule façon d'expliquer une situation, c'est de se dire « OK, ils réagissent comme ça parce que c'est pas une exception, puis vraisemblablement, ils protègent un système. » On a eu des histoires comme ça récemment. On a eu ça clique. Hier, je vous ai raconté une histoire à briser le cœur. Mylène Moisan, dans le journal Le Soleil, qui nous parlait d'une situation concernant la DPJ.
Une lanceuse d'alerte qui a perdu sa job.
Une travailleuse sociale qui est allée et qui est montée jusqu'au gouvernement pour dire « Hey, moi, je tombe sur des dossiers d'adoption d'enfants où il n'y a rien qui marche. » Les vérifications sont pas faites. Les outils sont pas utilisés. Je tombe sur des dossiers où il y a des affaires de barrés qui sont remplacées par des mensonges. Je vais où avec ça? Je fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? La madame, un moment donné, personne n'y répondait. Elle a décidé de parler aux médias. Elle s'est rendue au gouvernement. Le ministre Carman, à l'époque, il a dit « Ça n'a pas de bon sens. On va changer les lois, madame. » Le premier ministre François Legault, il a dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle a eu comme récompense? Peut-être une médaille à l'Assemblée nationale? Non, elle a perdu sa job. Donc, crissé dehors. Et quand elle a voulu revenir, puis retenez ce bout-là, il est important, OK? Quand elle a voulu revenir et porter plainte au protecteur du citoyen, le protecteur du citoyen, en gros, il a dit, t'as parlé aux médias, tu perds ta protection. Organise-toi avec tes troubles, la plainte est pas recevable. Message, si à DPJ, vous trouvez que ça ne marche pas, fermez donc vos gueules ou perdez votre job. On a une autre histoire qui ressemble étrangement à celle-là aujourd'hui. Une histoire qui implique Jérôme Landry. Puis je suis vraiment content d'avoir des nouvelles de Jérôme. Depuis la Nordique Nation, je l'avais comme perdu de vue. Puis je suis content de savoir qu'il s'est refait. On me dit que c'est pas le même Jérôme Landry. Mes excuses, mes méprises, c'est pas lui. C'est un autre Jérôme Landry, celui du restaurant Bière et Frites.
Oui.
Parce que moi, j'ai connu un Jérôme Landry qui prenait beaucoup de bière et qui mangeait beaucoup de frites. D'ailleurs, c'était souvent ensemble qu'on mangeait beaucoup de... Je me disais, ben,
c'est un moment de communion.
Je me disais, c'est une compagnie qui y ressemble. Tabarnouche, ça avait de l'allure, ouais. Mais on me dit que c'est pas le même Jérôme Landry.
Mais ça, c'est une histoire qui est absolument, absolument horrible.
Parce que dans cette histoire-là, Jérôme Landry est un héros que je vois et que j'écho s'en servir d'une image sonore.
Non! Défendu.
Okay. Jérôme Landry, c'est le propriétaire de Bière et Frites. Si vous connaissez ça, vous savez qu'ils vendent des bières puis de la frite, puis c'est pas cher, puis tout. Puis tout, si vous les connaissez pas, ils sont dans le coin ici, là, dans le coin de la rue Marais.
Mm-hmm.
Ouais. Les bières, les frites sont dans le coin de Marais. On a du fun. L'histoire.
Il va y avoir une tempête de neige.
Là je scrappe mes propres histoires. Là, fait que là, je vais essayer d'être.
Mais d'habitude,
d'être
tu scrapes les miennes. Je suis comme contente. T'es équitable.
Je suis content que Jérôme Landry aille jusqu'au bout, le propriétaire de Bière et Frites, parce que cette histoire-là n'a pas de maudit bon sens. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vais essayer de vous le résumer le plus succinctement possible. C'est un inspecteur de la régie des alcools, des courses et des jeux qui fait face à des accusations criminelles après avoir fabriqué une fausse plainte contre le restaurant Bière et Frites, une faute pour laquelle son employeur lui avait imposé une ignoble suspension de 2 jours. Le gars a fabriqué une fausse plainte parce qu'il y avait un problème avec un restaurant, puis pour ouvrir un dossier, ça prenait une plainte. Fait que le gars a écrit lui-même une plainte pour ouvrir un dossier puis avoir le droit d'aller enquêter Bière et Frites.
Weird, hein?
Assez weird pour perdre sa job, à mon humble avis. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. La régie des alcools, des courses et des jeux lui ont donné 2 jours de suspension après l'avoir défendu en disant que c'était une erreur administrative. Chris. L'histoire, pourquoi on la sait? Ah! Parce qu'une employée de la régie des alcools, des courses et des jeux a parlé avec Jérôme Landry, celui de Bière et Frites, pour lui dire « By the way, là, le problème que t'as, ça part d'une fausse plainte. »
Puis là, elle est rendue où, non?
Ils l'ont crissé dehors.
Ah, Seigneur Dieu!
Elle a perdu sa job.
On lui reprochait d'avoir partagé de l'information confidentielle.
Fait que la personne qui agit bien dans un dossier pour dénoncer un système de fraude, de corruption et de malveillance et de malhonnêteté, elle a perdu sa job. La personne malhonnête, malicieuse et fraudeuse a 2 jours de suspension. La seule façon que ça fonctionne puis que le carré rentre dans le cercle, c'est que c'est pas la première fois puis que c'est pas le seul à faire ça, hein? C'est quoi l'idée de protéger un gars? Il n'y en a pas de raison. Protéger un système? Là, tu commences à avoir beaucoup de raisons. En passant, j'ai aucune preuve de ce que j'avance.
C'est une théorie.
Lancez-moi pas de poursuite puis lancez-moi pas de tomates. Moi, je suis un gars de mathématiques. Vous me connaissez?
Oui. Grand mathématicien, hein? À César.
La base des maths,
mm-hmm. Denis Gravel. Je suis peut-être pas mathématicien, mais quand j'étais jeune, j'ai lu Sherlock Holmes et la phrase de Sherlock Holmes, c'était quoi? Quand vous enlevez tout ce qui est impossible, ce qui reste, même si ça n'a pas de bon sens, ce qui reste, c'est le possible. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La personne qui dénonce une façon de faire malhonnête perd sa job. La personne qui se comporte de façon malhonnête est suspendue 2 jours. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que faut protéger le système? Moi je n'ai pas d'autre théorie. Je suis un gros niaiseux, je fais de la radio à Québec. Si vous en avez d'autres, si vous voulez me remettre sur les rails parce que je suis rendu coucoulouse, textez-moi. 418-971-1021. Faut me ramener vers l'extrême centre quand je commence à dérailler. J'ai peut-être besoin de vous autres. Je suis peut-être complètement fou. Peut-être pas non plus, par exemple. Peut-être pas. Je suis content parce que Jérôme Landry de Bière et Frites poursuit le fonctionnaire. Mm. Et le fonctionnaire a été arrêté. Et il va être accusé au criminel. Puis c'est une affaire qui aurait pu se régler avant. Savez-vous grâce à qui?
Non.
Je vous avais dit d'être attentif tantôt. Cette affaire-là devrait être réglée depuis un bout grâce au protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen, c'est le même organisme auquel notre travailleuse sociale qui a perdu sa job s'est adressée.
Puis qui était censée la protéger.
Qui était censée la protéger. Puis le protecteur du citoyen, il a dit, t'as parlé aux médias? Organise-toi avec tes troubles. En lançant le message par en dessous, c'est un problème avec la DPJ, ferme ta gueule. Le restaurateur, Jérôme Landry, rappelle qu'un juge de la Cour supérieure a statué l'an dernier que le simulacre de signalement et la tentative de dissimulation menée par l'inspecteur chef Sylvain Leblanc ne représentent pas de l'information confidentielle. Donc, à partir du moment où quelqu'un partage cette information-là, elle ne commet aucun acte criminel et aucun acte
répréhensible.
Mm-hmm. Pourtant, elle a perdu sa job quand même. Le propriétaire de Bière et Frites critique le protecteur du citoyen qui avait reçu un signalement de la part d'Ariane Baillargeon. Ariane Baillargeon, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est elle qui a perdu sa job quand elle est allée dire à Jérôme Landry « Vive la Nordique Nation ».
Non, c'est Denis, pas ça. Arrête.
Excuse. J'ai un peu de...
Tu mélanges.
Ouais, de la misère. Ouais. De la misère.
T'es confus.
M'en viens sénile un peu.
Ah, oui.
C'est la tempête qui s'en vient, me disent certains auditeurs. Peut-être, peut-être. Non, c'est elle qui est allée y dire au propriétaire de Bière et Frites.
Elle était directrice l'histoire... à la RACJ.
Oui.
La RACJ qui est aussi poursuivie.
L'histoire à part d'une fausse plainte. Mm. Donc, elle, vraisemblablement, elle trouvait ça cheap, puis elle trouvait ça déloyal et malhonnête. L'organisme, le protecteur du citoyen, a conclu que l'inspecteur Leblanc n'a pas commis d'acte répréhensible. Inspecteur Leblanc, qui s'est écrit une fausse plainte à lui-même...
Pour pouvoir enquêter,
n'a commis aucun acte répréhensible. C'est 0-2 en 24 heures pour le protecteur du citoyen. Puis, je pose une question sur... le Québec en général, sans vouloir faire de généralité. Mais présentement, on a une députée libérale qui n'est plus députée libérale parce qu'elle a été la seule à dénoncer la corruption. Puis tous ceux qui sont restés autour de Pablo à l'applaudir comme des otaries sont encore dans le Parti libéral. La seule qui est punie, c'est celle-là qui a dénoncé la corruption.
Parce qu'elle n'a pas été loyale.
On vit dans un monde où les chefs syndicaux d'une division syndicale prennent des dîners gros steak, brandy, shooter, vino, un petit peu de bière on the side, ils reprennent leur char pacté, char qui change à chaque année pour des pick-up neufs. Ah, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Là. Beaucoup
oui,
de problèmes.
Mais pour eux autres, il n'est pas là le problème.
Pour eux autres, il n'est pas là le problème. Parce que quand ça sort des médias, l'organisme syndical décide d'embaucher un enquêteur privé. C'est-tu pour trouver les crosseurs avec les factures des cotisations syndicales? Non.
Mais non.
C'est pour trouver le petit Chris de rat qui a parlé aux journalistes.
Comment ça fait que c'est sorti, hein?
Dans une société où le protecteur du citoyen dit à une femme qu'elle a mérité de perdre sa job parce qu'elle a dénoncé la DPJ de son secteur qui se comportait de façon non conforme et malveillante avec des enfants, ce qui a été confirmé par le ministre de l'époque, Carman, et le premier ministre François Legault, le protecteur du citoyen, a dit « Tu mérites de perdre ta job, t'as parlé d'un journal. Si tu vois de quoi te croche à la DPJ, ferme ta gueule. » Dans un monde comme ça, Jérôme Land, le propriétaire de Bière et Frites, est un héros. Mais ça en dit long sur nous autres, je trouve. Parce que ça,
système, Denis.
Ça commence à faire beaucoup dans plusieurs catégories. Puis dans le journal Le Soleil de ce matin, on nous en rappelle une couple d'autres. Il y a deux semaines, la Commission à la lutte contre la corruption a annoncé l'arrestation d'un ancien préposé de la SAAC pour utilisation non autorisée d'un ordinateur, méfait à l'égard de données informatiques et abus de confiance. Le gars, François Dagenais, selon l'enquête, aurait profité de son accès au système informatique de la SAAC afin de consulter et de modifier des informations relatives à l'une de ses connaissances et à des proches de celle-ci. Il va comparaître en mai du côté de Montréal. Il y a le cas d'Abdelaziz Younsi, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique, condamné en 2018 à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité pour avoir organisé avec un ami une fraude de 300 000 $ aux dépens de l'État québécois. Plusieurs anciens employés du réseau de la santé qui ont aussi été accusés pendant notre fameuse pandémie. Hein, on s'ennuie de ce temps-là. Là. Nous autres, les coucous, on était les héros de la place. Là, là on n'est plus rien. Tout ce qui nous reste, c'est Guillaume le Métivierge. On va plus le voir. Plusieurs anciens employés du réseau de la santé ont aussi été accusés pour avoir créé de faux passeports vaccinaux pendant la pandémie.
T'as tous ceux aussi qui consultent des informations de dossiers privés. T'as des histoires, il y en a plusieurs, de différentes ampleurs. Mais actuellement, ce qu'on dit aux lanceurs d'alerte, c'est fermez vos gueules. Vous êtes beaucoup plus à risque que ceux qui posent des gestes qui sont répréhensibles.
C'est...
dégueulasse.
C'est décourageant. T'sais...
Mais c'est parce que ça nourrit la machine, là.
Ça nourrit le cynisme.
Ah ouais.
Le cynisme, c'est le pire ennemi de la démocratie. Et là, je donne pas de leçons au monde. Je suis le plus grand cynique de la Terre. Je ne vais plus voter. Je fais partie du problème. Je fais pas partie de la solution. Puis quand le monde, comme Gravel, vont être dans la majorité, on va être dans marde. Mais comment voulez-vous qu'on devienne pas cynique avec des histoires comme ça? Comment voulez-vous qu'on ait foi à un système qui se fout de qui est au pouvoir puis des changements de gouvernement? Parce que c'est un peu ça qui arrive. On les a tous essayés, couleurs. Là. La machine, elle s'en fout. Elle roule de façon isolée. Elle fait ses affaires. Puis quand quelqu'un arrive avec un plan de réforme, hey, elle blanc bec. Il ne nous montrera pas à travailler vite. Là. Ma permanence ici, moi-là. Là. Dommage. Dommage. 16h41. Est-ce qu'on a assez parlé de Jérôme Landry, Véro?
On est correct.
OK, c'est bon.
Il est... On avait un quota à combler, c'était ça?
Oui. Ton quota est-tu...
Il est atteint.
Ouais? OK, c'est bon. On s'arrête quelques instants. Vous êtes à Boulevard 102. C'est Gravel dans le retour.